Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous et à toutes. Pas question d'oublier un des deux genres aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans les carnets du monde. On vous a concocté une émission très 8 mars, pour une fois qu'on tombe pile le bonjour. On sera d'abord au Rwanda dans quelques secondes. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Est, après le génocide des Tutsis, la place des femmes a changé. D'abord parce qu'elles étaient là pour reconstruire. Et puis question de volontarisme politique aussi. Et ça marche, 49 des 80 députés sont des femmes. Et puis à l'échelle très locale, on va entendre comment une ONG incite des villageois à aider leurs femmes à la maison. À l'inverse, les perspectives sont plus sombres pour les femmes en Afghanistan qui craignent un grand retour en arrière, car l'accord entre talibans et américains ouvre la voie à un possible retour aux affaires des fondamentalistes. Notre correspondante a pu se rendre dans une zone contrôlée par les talibans, elle y a rencontré des femmes, reportage rare à écouter tout à l'heure. Grand retour en arrière aussi pour certaines femmes qui, elles, choisissent aujourd'hui de vivre comme les femmes traditionnelles d'il y a plusieurs décennies. Ce sont les Trad Wives, on va en rencontrer une en Angleterre, Gemma, elle a 30 ans et s'épanouit, dit-elle, en restant fixée sur l'objectif, complimenter son mari et être une parfaite femme au foyer. Enfin, je vous emmènerai dans trois pays où l'IVG reste interdite et passible de prison, souvent des pays où des femmes meurent en avortant clandestinement, 7 Kenyanes par jour par exemple, un chiffre si terrible que la situation bouge un peu là-bas. On sera aussi à Malte où rien ne change. Et en Argentine, peut-être à la veille de la légalisation de l'IVG dans un continent très conservateur sur le sujet. Enfin, la littérature. Nicolas Caro vient avec deux livres d'une grande auteure américaine, Joyce Carol Oates. Et puis Joseph, lui, a un jour de retard. Il est resté bloqué sur la journée mondiale de l'improvisation. C'était hier. Et l'improvisation, c'est pas son truc. Les carnets sont ouverts. Direction Kigali, au Rwanda.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
C'est partout pareil dans le monde, les femmes et les hommes cherchent leur place et on a tous notre petite idée des endroits où les droits des femmes sont mieux respectés ou longtemps vers l'égalité. Et je parie que vous n'auriez pas forcément mis le Rwanda dans cette catégorie. Quand on évoque le pays des mille collines, c'est surtout pour se rappeler le génocide des Tutsis en 1994 qui a fait 800 000 morts. Certains dénoncent aussi le caractère autoritaire du régime dirigé par le président Paul Kagame. Mais c'est surtout un pays qui avance à pas de géant et notamment vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Dans les carnets, on vous emmène à Nombé, un village à 2 heures de Kigali par la route. Margot Chevance y a suivi le travail d'une association créée par des hommes pour inciter ces messieurs à prendre leur part du job dans la famille. Reportage.
Sur le perron de leur petite maison de terre, nichée sur le flanc de la colline entre les bananeraies, Valence Nyanouille accueille sa femme, Eugénie.
Comment va notre fils et que t'a dit le médecin?
On lui a diagnostiqué le paludisme.
Passe-moi son pull, il commence à faire froid. T'en fais pas, Brian, tu vas guérir, ok? Passe ton bras ici, dans la manche.
L'homme attache avec précaution son enfant dans son dos, un geste dont il n'avait pas l'habitude. Son épouse l'encourage du regard.
C'est bien.
Auparavant, ce couple vivait dans la violence jusqu'à ce qu'ils suivent le programme d'une ONG locale, Rwamrek, qui enseigne l'égalité. Depuis, leur quotidien n'est plus le même.
Je n'avais jamais fait ça avant. Je considérais que ça n'était pas mon devoir. Mais ma vision maintenant a changé. L'éducation de mon enfant me concerne aussi. Et je suis très fier de le porter dans mon dos et d'aider mon épouse dans des tâches que je considérais avant comme uniquement réservées aux femmes.
Pour en arriver là, ces deux trentenaires ont suivi assidûment 17 séances de formation. Valence a appris à s'occuper de son foyer, à s'investir. Les études menées par l'ONG rwandaise montrent que si l'homme valorise le travail que fait sa femme à la maison en y participant, la perception qu'il a d'elle change.
Préparons plutôt des légumes et la sauce pour le déjeuner. Le haricot, c'est trop long à cuire.
Oui, tu as raison.
La cuisine, Valence n'y avait jamais mis un pied. Mais ce matin, c'est lui qui attise le feu sous la casserole d'eau bouillante et lave les couverts.
Je ne pouvais pas imaginer un jour aider ma femme comme ça. D'ailleurs, au début, Mes voisins n'ont pas cru que j'avais changé. Ils ont commencé à dire que j'étais dominé par ma femme et qu'elle m'avait ensorcelé.
Une plaisanterie qui fait sourire Eugénie, mais qui n'efface pas pour autant les souvenirs de maltraitance.
Mon mari me forçait à avoir des relations sexuelles avec lui. Il me frappait, très souvent, et prenait tout l'argent que je gagnais. Je m'occupais de nos enfants toute seule. Je faisais toutes les tâches ménagères, mais aujourd'hui, tout a changé. Nous prenons toutes les décisions concernant notre famille ensemble. Et quel soulagement qu'il m'aide à la maison. Tout se passe enfin très bien. Et ça a aussi permis d'améliorer les conditions de vie de toute la famille.
Dans le village voisin de Ngendo, débute un atelier de sensibilisation contre les violences conjugales. Une centaine de personnes serrées les unes contre les autres dans la petite salle communale ont les yeux rivés sur un homme, Viateur Munyemana. Comme Eugénie et Valence, ce quarantenaire a suivi le programme pour l'égalité de l'ONG Rwamrec.
Dans une vie de couple, l'homme et la femme doivent s'entraider à la maison et ailleurs. Que pensez-vous de cette affirmation ?
Avant, il y avait des tâches uniquement pour les femmes et d'autres pour les hommes. Il y avait aussi beaucoup de tabous envers les femmes. Dans une famille, par exemple, l'homme prenait le vélo alors que la femme devait marcher. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La femme peut monter à vélo et l'homme marcher à ses côtés.
Dans la foule, des affiches circulent. Un homme dessiné avec un bébé dans le dos, un autre qui lave le linge. Des scènes ici plutôt inhabituelles. Ce qui ne décourage pas Viateur, venu partager sa propre expérience.
L'exemple que j'utilise, c'est de raconter comment j'abusais moralement de ma femme. Je lui disais qu'elle n'avait pas le droit de quitter la maison si elle n'avait pas ma permission, ou encore qu'elle ne pouvait pas utiliser ni prêter aux voisins nos affaires sans mon autorisation, comme par exemple nos outils agricoles. Mais je veux aussi que les gens sachent qu'on ne change pas d'un coup. Il y a toujours des réticences dans les mentalités. Donc, j'essaie d'approcher les hommes qui maltraitent leurs femmes, d'être avec eux et de leur montrer la meilleure voie à suivre.
La séance se termine sous les applaudissements. Parmi les villageois, la responsable de la circonscription, Marianne Douchimana, une femme assise au premier rang, comme un modèle de réussite. À Kigali, Margot Chevance, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et Margot Chevance est en ligne avec nous depuis Kigali. Bonjour Margot.
Bonjour.
On l'a entendu dans votre reportage, l'égalité fait son chemin pas à pas dans les villages du Rwanda, mais pas seulement. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire du pays où les femmes s'affirment particulièrement ?
D'abord, il faut savoir qu'avant la colonisation belge, les femmes au Rwanda conseillaient les rois. Elles étaient très écoutées, respectées, on les sollicitait beaucoup. Les femmes étaient vraiment au cœur de la culture rwandaise. Ensuite, la colonisation a mis à mal tous ces schémas avec l'arrivée du christianisme et il en a découlé une culture du patriarcat. Mais depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a une révolution lente qui traverse le pays.
Alors ça, c'est peu de temps après le génocide des Tutsis en 1994, qui a fait plus de 800 000 morts, c'était il y a 25 ans.
Exactement, et au lendemain des massacres, la population, elle est composée majoritairement de femmes qui ont été témoins de l'horreur. Et ce sont elles qui retournent les premières aux champs, qui vont labourer la terre, qui apprennent de nouveaux métiers jusqu'ici réservés aux hommes. Dans les années qui ont suivi, il y a eu une série de lois qui rétablissent l'égalité, comme par exemple le droit d'hériter en l'absence de testament qui est voté en 99. Et il y a une dernière chose qui a véritablement renforcé la place des femmes au sein de la société rwandaise, c'est la création en 2002 des gachacha, ces tribunaux communautaires villageois pour juger les crimes du génocide des Tutsis. Alors non seulement 70% des juges étaient des femmes, mais ces tribunaux ont aussi permis de libérer leur parole. Parce que les femmes ont témoigné de ce qui leur était arrivé. Le génocide, le viol, la torture, ces tribunaux ont ouvert l'espace public aux femmes pour la première fois et c'est là qu'elles se sont dit que le moment était venu pour prendre leur place.
Et derrière cette révolution que vous décrivez, il y a aussi une volonté politique de favoriser l'inclusion, l'égalité homme-femme et ça c'est déterminant.
Oui, c'est certain. Il y a d'abord un leadership du président Paul Kagame qui encourage la parité. C'est vraiment une politique volontariste qui est complètement assumée. Je dirais presque que c'est sa marque de fabrique. Depuis 2003, la Constitution impose que 30% des postes soient réservés aux femmes dans les instances de prise de décision. Résultat, 49 députés sur 80 sont des femmes. C'est la plus forte participation dans le monde. 4 des 7 juges de la Cour suprême sont aussi des femmes et la moitié du cabinet du président de la République. Il y a en plus un ministère du genre et de la promotion de la famille qui comprend même un département chargé d'identifier les lois discriminatoires contre les femmes et de les amender. Il y avait par exemple une loi qui interdisait à une femme de travailler la nuit et elle a été supprimée.
Ouais, donc c'est vraiment une volonté d'avancer vers l'égalité. Mais j'imagine, Margot, que comme partout il y a des freins, des réticences, tout n'est pas rose.
Non, c'est sûr. Et justement, j'ai rencontré deux jeunes féministes rwandaises, Niki Alonga et Aline Berabose, qui ont créé le premier podcast du pays qui s'appelle Breaking Silences, briser le silence. Et ce qu'elles m'ont expliqué, c'est qu'au Rwanda, eh bien, le silence d'une femme serait sa plus grande qualité, une forme de dignité. Une femme qui parle peu, qui écoute, c'est ce qu'un homme rechercherait, c'est culturel. Donc vous comprenez, c'est difficile de changer les mentalités. Et une dernière chose, l'une d'entre elles participe à un séminaire pour traduire en Kinyarwanda, qui est la langue officielle du pays, des termes liés au féminisme. Car des mots comme féministe ou patriarcat, eh bien, ils n'existent pas aujourd'hui en Kinyarwanda.
Voilà de nouveaux mots pour un nouveau monde. C'est une bonne pente. Merci beaucoup, Margot, pour ce coup de projecteur sur le Rwanda, un petit pays surprenant. Et vous êtes la bienvenue dans les carnets et sur Europe 1 pour nous le raconter avec en prime les petits oiseaux qu'on entend derrière vous. À très vite.
Merci, à bientôt.
On va aller maintenant à la rencontre de femmes qui, elles, sont plutôt sur une pente dangereuse. Il s'agit des Afghanes qui craignent beaucoup le retour des talibans au pouvoir après l'accord passé avec les Américains. Tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Deuxième étape des carnets du monde, nous voici en Afghanistan, un pays en guerre où l'on s'intéresse là encore à la cause des femmes, Sophie Larmoyer.
Leur situation avait réellement progressé ces dernières décennies, mais aujourd'hui, les Afghanes ont peur de tout perdre, leur droit d'étudier, de travailler, de circuler même. Elles sont très inquiètes du retour dans le jeu des talibans. Ils n'avaient jamais quitté le pays, mais après l'accord signé il y a 8 jours avec les États-Unis, les extrémistes espèrent redevenir des acteurs de la vie politique. Or, les femmes n'oublient pas combien leur existence même était niée sous le régime de ces fondamentalistes entre 1996 et 2001. Notre correspondante Margot Ben a pu se rendre dans une zone contrôlée par les talibans, à l'est du pays, aux confins du Pakistan. Elle est allée à la rencontre des femmes afghanes. Reportage.
C'est une petite cour parsemée de grenadiers qu'encercle un bâtiment qui abrite des salles de classe. Une nuée d'écolières joue pendant la récréation les voiles blancs de leurs uniformes au vent. Nous sommes à Shamshapur, un hameau perdu dans une vallée afghane aux confins du Pakistan. Et ces petites filles ne manquent pas d'ambition.
Moi, je voudrais devenir ingénieur pour servir mon pays. Je voudrais construire des choses qui amènent la paix dans mon pays.
Moi, je serai policière pour servir mon pays et que les gens soient en sécurité.
Et moi, j'aime toutes les matières, mais je veux devenir médecin pour femmes.
Ici, personne ne sait vraiment qui contrôle le village. Plusieurs habitants s'accordent à situer une position talibane à une centaine de mètres. D'autres considèrent qu'ils vivent sous le joug de la guérilla. Ce qui est sûr, c'est que le groupe armé a le contrôle total sur les institutions censées être gérées par le gouvernement. Le directeur de l'école, Abdul Kabir Niazi, a su s'en accommoder.
Les talibans m'ont délivré une lettre autorisant l'école à ouvrir ses portes. Et d'ailleurs, ils nous font parvenir régulièrement des lettres avec des instructions. Par exemple, nous devons respecter leur programme scolaire et la loi islamique.
Bibi Rana, en charge de l'administration, trie des dossiers dans une minuscule salle au mur défraîchi. Dans l'obscurité, on la discerne à peine derrière son niqab.
Moi, je veux croire que les talibans ne nous poseront pas de problème. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on respecte la religion. Et je suis prête à faire ce qu'ils veulent pour qu'ils nous laissent vivre en paix.
Dans une salle de classe, une quinzaine d'adolescentes assises par terre assistent à un cours sur l'énergie solaire. Il ne figure pas au programme autorisé par les talibans, mais pour ces jeunes filles, comme Yasmine, 17 ans, c'est un acte de résistance.
Les talibans nous disent de ne pas lire de livres modernes ou occidentaux
Et ils nous obligent à porter le voile intégral. Mais ce n'est pas ça qui nous arrête. Moi, j'aime la littérature et ici, nous étudions les livres que nous voulons. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Nous sommes déterminés.
Pourtant, Yasmine et ses camarades sont inquiètes. Car avec la signature d'un accord par les États-Unis et les talibans et le dialogue prévu entre le groupe armé et les représentants de la société afghane dans quelques jours, de nombreuses militantes féministes craignent un retour au pouvoir des fondamentalistes islamistes.
Les élèves là-bas ne réalisent pas, mais d'ici quelques mois, elles abandonneront peut-être leur rêve d'un métier. Mais nous, si.
Juste à côté de l'école, dans la clinique pour femmes, trois employés au voile multicolore et au maquillage soigné papotent pendant la pause déjeuner. Arezo, sage-femme de 24 ans, est perchée sur des escarpins à paillettes.
La guerre nous rend prisonnières parce qu'à cause de l'insécurité, nos parents veulent nous garder à la maison. Si une femme s'aventure dehors, elle est vraiment en danger. Donc nous voulons la paix. Mais si la paix veut dire que les talibans reviennent au pouvoir, c'est aussi un problème pour nous les femmes, car nous ne pourrons pas sortir de chez nous, ni travailler. Les talibans voudraient que les femmes demandent même l'autorisation de vivre.
Cette crainte, partagée par beaucoup de femmes en Afghanistan, j'en parle un peu plus tard dans la journée à Esmatullah. C'est un chef tribal qui fait parfois office de médiateur entre les villageois et les talibans. Et il se veut un peu plus optimiste.
Avant, les talibans arrêtaient les enseignants et les médecins. Ils étaient très durs avec les femmes. Mais aujourd'hui, ils ont changé. Dans plusieurs provinces du pays, le gouvernement et les talibans se coordonnent même pour gérer les institutions. Alors bien sûr, ce n'est pas le cas partout, mais selon moi, les talibans d'aujourd'hui ne sont pas aussi extrémistes que les membres du groupe État islamique, surtout envers les enseignants et puis les femmes.
Direction le district voisin, en plein territoire taliban. Dans une petite pièce qu'un demi-jour éclaire par une lucarne, Aulia Khan Sangari me reçoit dans la pénombre. Si les talibans revenaient au pouvoir, les droits des femmes seraient-ils respectés ? Le commandant, au regard sombre et à la longue barbe noire, reste vague.
Grâce à Dieu, nous sommes musulmans. Et pour ce qui est de l'éducation et toutes ces choses, nous sommes en faveur des droits qui sont accordés aux personnes dans le cadre de l'islam.
Un discours très ambigu qui est celui des grands chefs talibans et qui n'est pas de nature à rassurer les Afghanes, mis à l'écart de toutes les discussions entre talibans et américains. À Sohrod et Durbaba, Margot Ben, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et à Kaboul, la capitale afghane, où on retrouve Margot Ben qui est en ligne avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous nous dites à l'instant que les femmes n'ont pas été associées aux discussions qui ont abouti à l'accord historique entre talibans et américains. Mais c'est même pire que ça, il n'a jamais été question de leur sort, n'est-ce pas ?
Absolument, alors que les droits des femmes, leur place dans la société, c'est un sujet en soi en Afghanistan depuis plus de 18 ans, depuis que les Américains ont chassé les talibans du pouvoir en 2001. Et par le passé, quand d'autres administrations américaines ont tenté de discuter avec les talibans, le respect des droits des femmes était une condition à toute avancée. Alors cette fois, rien de tel. Et les militantes féministes craignent vraiment d'être une variable d'ajustement dans les futures discussions au plus haut niveau. Comme tous les Afghans, elles veulent la paix, bien sûr, mais pas aux dépens de leur liberté.
Oui, parce que ces jours-ci doivent débuter d'autres discussions en vue d'un plan de paix, cette fois entre les talibans et les représentants de la société afghane.
Oui, parce que vous savez, la guerre ici, elle est complexe. Outre la présence de l'État islamique, dans certaines régions, vous avez les États-Unis qui frappent des positions talibanes. Et c'est encore arrivé cette semaine, malgré l'accord signé il y a 8 jours. Tout cela pour défendre l'armée régulière afghane, qui, elle, est la cible permanente des talibans. Or, ces gens-là, justement, le gouvernement afghan et les talibans sont censés se parler désormais pour trouver comment ils vont coexister à l'avenir. Ce processus sera très long, mais l'une des hypothèses possibles, ce serait l'intégration des fondamentalistes dans le gouvernement. Et ils auraient donc leur mot à dire sur les lois.
Ouais, d'où l'inquiétude des femmes, notamment celles qui ont déjà connu la vie sous la burqa avant 2001.
Exactement. Depuis la chute des talibans, de plus en plus de femmes peuvent étudier, ont accès à une multitude d'emplois, y compris au gouvernement. Elles dirigent des organisations, des lois ont été passées qui condamnent les violences faites aux femmes. La protection des droits civils, et notamment ceux des femmes, ont été inscrits dans la Constitution en 2004. Autant d'avancées qui pourraient être perdues. Il se dit officieusement que d'anciens ministres et autres responsables ont été chargés de réfléchir à ce qui devrait être immuable dans la Constitution et ce qui pourrait être concédé aux talibans pour arracher un accord de paix.
Ouais, elles auraient donc raison de s'inquiéter, ces femmes afghanes que vous nous avez permis d'entendre. Merci beaucoup Margot Ben
pour ce reportage rare, hein, je le rappelle, aller en zone talibane, ce n'est pas chose facile. À très bientôt.
À bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h25, après la place des femmes au Rwanda et à l'instant en Afghanistan. Un carnet du monde qui tombe pile un 8 mars, on y parle forcément beaucoup des femmes, y compris pour ce rendez-vous littéraire. Un livre dans le monde avec Nicolas Caro qui nous a rejoint, Sophie Larmoyer.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Vous voilà donc avec un roman américain écrit par une auteure et une auteure qui met en scène les femmes.
C'est ça, il y a les féministes militantes qui portent des actions très concrètes sur des sujets très précis et c'est très bien. Mais il y a aussi les femmes qui sont en elles-mêmes des modèles pour tout le monde. Mmh. C'est le cas de Joyce Carol Oates, 81 ans. Sans doute, on croise les doigts, l'une des prochaines prix Nobel de littérature. Elle a publié une centaine de romans et elle en publie toujours autour de 3 par an.
Et des nouvelles aussi.
Exactement. C'est une graphomane, justement, vient de paraître cette semaine, Démembré, écrit en séparant bien les syllabes, chez Philippe Ray, son éditeur français, superbe maison d'édition, au passage, qui ne publie que des petits bijoux. Et c'est donc un recueil de nouvelles qui met en scène des femmes confrontées à la violence. Cette nouvelle dingue, comme la première, Démembré, donc, je vous raconte.
Allez.
C'est l'histoire de Jill. Elle nous parle d'un type, Rowan Billiette. On ne sait pas trop qui il est par rapport à elle. Il est clairement faux de présenter Rowan Billiette comme mon oncle, puisqu'il n'est ni le jeune frère de mon père, ni de ma mère. Il ne peut pas être mon oncle. Mais de même que d'autres inexactitudes publiées dans les journaux locaux, celles-ci seraient répétées jusqu'à devenir communément admises, et des décennies plus tard, on s'en souviendrait aussi vaguement que de ces rêves affreux qui se transforment en souvenirs, tels des taches d'eau délavées sur du papier peint. Ce jeune oncle à toi, comment s'appelait-il déjà? Ce beau mec qui conduisait toujours des voitures de luxe?
Bah c'est qui alors?
Eh bien, c'est une sorte de cousin par alliance, donc on ne sait pas trop. Ce qu'on découvre au fur et à mesure, c'est qu'il est particulièrement dérangé, à tendance psychopathique. Je ne vous en dis pas plus, mais enfin, le titre de la nouvelle donne le ton. Démembré, donc.
À chaque nouvelle, on change.
Je vous laisse imaginer.
À chaque nouvelle, on change d'ambiance, c'est
absolument. C'est la particularité de Joyce Carol Oates, nous emmener, nous montrer, voire dénoncer toutes les strates de la société, comme nous l'explique Philippe Ray, son éditeur.
Elle a surtout une faculté d'aller dans tous les compartiments de la société américaine. Ça peut être des combats féministes, ça peut être des problèmes raciaux, ça peut être des questions de la presse, ça peut être des abus, ça peut être des polars, etc. Elle est vraiment partout et elle a une œuvre comme ça, protéiforme, roman, nouvelle, essai. Et elle est d'une imagination, d'une fécondité incroyable. D'autant plus que, encore aujourd'hui, à son âge, elle est plus prolifique que jamais, puisqu'elle écrit à peu près 3 livres par an.
Mais moi, je suis un peu rentre-en-plan. J'étais justement en train de me dire, vous nous aviez dit tout à l'heure, 3 livres par an, c'est incroyable. Elle est féministe aussi, Joyce Carol Oates, au-delà d'être une femme qui écrit sur les femmes.
Absolument. Alors oui, déjà, c'est celle qui a sans doute créé le plus de personnages féminins, mais aussi parce qu'elle a beaucoup de livres. elle est féministe à sa manière. Elle montre. Elle ne cherche pas à cliver, à se mettre dans un camp ou dans l'autre. C'est par ses histoires sans jugement qu'elle arrive à convaincre. C'était très clair, notamment dans son dernier roman, son plus grand, selon beaucoup de critiques. Il s'appelait « Un livre de martyr américain », 900 pages pour évoquer l'avortement, mais sans prendre parti, ce qui est d'autant plus fort.
Aux États-Unis, la lutte contre l'avortement est tellement puissante, tellement frontale et tellement violente qu'on ne voit pas trop de réconciliation possible entre les pro-life et les autres. Et ce qui est beau dans son texte, je trouve, personnellement, c'est qu'à aucun moment, elle ne va prendre parti pour simplement montrer les faits plutôt que de plaquer sur eux des jugements trop forts.
La lutte contre ou pour l'IVG, d'ailleurs, qui est en ce moment même à la une de l'actualité aux États-Unis, en débat à la Cour suprême. En tout cas, ça nous fait 2 livres à lire, ça.
Ben voilà, un livre de martyr américain et Démembré, le recueil de nouvelles.
Tout ça chez Philippe Ray, traduction.
Claude Seban pour le premier, Christine Hocher pour l'autre.
Merci beaucoup Nicolas. Et le droit à l'avortement, c'est justement notre petit dossier à suivre avec des reportages au Kenya, à Malte et en Argentine, 3 pays où c'est illégal. Et on vous retrouve à la fin de l'émission pour La Voix et Livre.
À tout à l'heure.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde. Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, écoutez Le Monde changer avec Sophie Armoyer sur Europe 1. Et maintenant, c'est sur 3 continents qu'on vous propose de suivre le combat de certaines femmes, un combat pour le droit à l'IVG, Sophie.
L'interruption volontaire de grossesse, légale ici en France depuis 1975, est encore criminalisée dans beaucoup de pays du monde. On va aller dans trois d'entre eux, l'Argentine, Malte en Europe et puis le Kenya. C'est notre première halte. Là-bas, l'avortement est encore considéré comme un crime passible de prison. Mais en juillet dernier, la justice a ordonné l'encadrement de cette pratique. Une belle avancée pour le droit des femmes, car chaque année, des milliers de Kenyans poussent les portes de cliniques clandestines pour se faire avorter en secret. Médicaments, mais aussi curetages ou opérations chirurgicales dangereuses font des ravages. Écoutez ce chiffre terrible. 7 Kenyans meurent chaque jour de complications liées à l'avortement. Reportage à Nairobi, Charlotte Simonard.
Au cœur d'un quartier pauvre de la capitale, une ruelle aux bâtiments insalubres. Jane, 23 ans, habite ici dans une pièce de 6 mètres carrés. Un lit, une commode et une petite table pour unique bien. Jane est une survivante. Elle a frôlé la mort suite à un avortement clandestin.
Cela s'est passé quand j'avais 17 ans. J'ai été violée par un homme et je suis tombée enceinte. J'étais désespérée, alors j'ai décidé d'avorter, mais je ne savais pas comment faire. J'étais à 6 ou 7 mois de grossesse. Un docteur m'a donné des médicaments et je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à avoir des contractions, le bébé est sorti, il était déjà mort. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai demandé de l'aide à ma voisine. Mais elle a prévenu le voisinage et ils ont appelé la police. On m'a mise en prison alors que je saignais seule dans ma cellule. Personne ne m'a aidée.
Elle restera 2 semaines en prison, subissant humiliation et violence, avant d'être emmenée finalement à l'hôpital. Mais le calvaire de Jane ne s'est pas arrêté là.
Ma communauté m'insultait, les gens disaient que j'étais une mauvaise fille. J'ai dû quitter la maison de mon père et je suis venue vivre ici. J'ai encore peur, personne ici ne sait.
L'avortement est un crime passible de 14 ans de prison. Et pourtant, 500 000 avortements sont officiellement pratiqués chaque année au Kenya. Un chiffre bien en deçà de la réalité, car il est basé uniquement sur les cas enregistrés dans les hôpitaux. En réalité, très peu de femmes demandent un suivi médical. Kenneth Juma, chercheur au Centre d'études sur la santé et les populations africaines.
Environ 75% des avortements se font dans de mauvaises conditions, dans des cliniques clandestines, des cliniques de rue, par des praticiens non formés. En général, ces femmes ont peu d'éducation, elles sont pauvres et ne sont pas capables d'assumer cette grossesse pour des raisons socio-économiques ou bien parce qu'elles ont honte. Donc, tout ce qu'elles veulent, c'est mettre un terme à la grossesse. Et ce genre de profil, si vous ne leur donnez pas accès à des soins de santé adéquats, sont particulièrement exposés à des pratiques d'avortement dangereuses.
La misère, la pauvreté et le manque d'informations entraînent certaines femmes à commettre l'impensable. Nous voilà dans le bidonville de Korogocho, le plus pauvre du pays, situé au pied de Dandora, une immense décharge à ciel ouvert. La rivière de Nairobi traverse ce quartier, entraînant dans son sillage des tonnes de déchets en tout genre. L'odeur y est pestilentielle. L'an dernier, une vaste opération de nettoyage de la rivière avait été menée par les jeunes du bidonville, jusqu'à cette découverte macabre un matin du mois de juin. 9 fœtus flottant au milieu des ordures, c'est John qui les a sortis de l'eau.
C'est ici qu'on les a trouvés. Vous voyez dans ce sac-là, quand on l'a ouvert, il y avait les jumeaux avec du sang encore frais. Il était 5 heures du matin, il faisait froid. Ils les ont jetés le matin même. Il y avait encore les gants du médecin, des seringues, des compresses de la clinique. Ils ont tout jeté avec les bébés morts. Je n'arrive pas à oublier cette image.
Les fœtus sont enterrés ici, au bord de l'eau, à même la terre, recouverts de quelques pierres. Des femmes lavent leur linge juste à côté et des enfants jouent dans la rivière.
Ici, il y a 5 tombes. Ces deux-là, ce sont des paires de jumeaux. Quand on les a trouvés, il y avait encore le cordon ombilical. Vous savez, ce sont des avortements. C'est commun ici.
Les cliniques clandestines font des ravages dans le pays. 7 Kenyans meurent chaque jour des suites d'un avortement. Ce sont ces terribles histoires qui ont poussé la justice kenyane il y a quelques mois à opérer une petite révolution. La mise en place de règles pratiques pour encadrer les avortements dans 2 cas seulement, lorsque la santé de la mère est en danger ou en cas de viol. Une victoire pour l'association FIDA qui regroupe des avocates féministes. Michelle Oyuga en fait partie.
Le jugement que nous avons obtenu est une étape importante. Il fera date dans la bataille pour les droits en matière de procréation et dans l'image que se font les gens de l'avortement au Kenya.
Une victoire d'autant plus savoureuse que les avocats ont dû faire face au très influent lobby chrétien, Michel Oyuga.
Leur influence est énorme. Notre pays aime se vanter que nous sommes une nation chrétienne, que nous défendons les valeurs africaines. Et lorsqu'on évoque des sujets liés à la sexualité, ils répondent toujours par « nous ne pouvons pas faire ça, nous sommes chrétiens ». Mais quand certains déterminent ce qui fait partie des valeurs chrétiennes ou non, la réalité c'est que des femmes meurent suite à des avortements clandestins. C'est l'une des causes principales de la mortalité maternelle au Kenya.
À ce jour, bien que la justice l'ait exigé, aucune loi encadrant l'avortement n'a encore été publiée par le gouvernement. Il peut encore faire appel de cette décision. À Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1.
Voilà, dossier à suivre au Kenya hein, pour voir si les politiques suivent les demandes de la justice. Beaucoup plus près de chez nous, en Europe, une femme qui se fait avorter à Malte risque 3 ans de prison. Cette petite île au sud de la Méditerranée est le dernier pays de l'Union européenne à interdire complètement l'avortement, sans aucune exception. Un sujet complètement absent du débat politique par ailleurs et sur lequel des militants et une poignée de médecins tentent de briser le tabou. Cécile Debarge les a rencontrés à La Valette, la capitale maltaise. Reportage.
Au loin, on entend le ciel d'hiver prêt à craquer au-dessus de l'université de La Valette. Peu importe la pluie qui arrive, une petite dizaine de militants alpaguent les étudiants pendant leur pause du midi. Certains stéthoscopes autour du cou, ce sont les Doctors for Choice, littéralement les médecins pro-choix.
Nous, les Doctors for Choice, on organise des cours d'information parce que même les étudiants en médecine, et j'en suis une moi-même, très souvent ils nous disent que nous ne sommes pas autorisés à parler de l'avortement parce que c'est illégal à Malte.
Saveria Cremona est étudiante en 5e année de médecine, membre associé des Doctors for Choice. Sur le stand qu'elle a installé, des dépliants sur la contraception et l'avortement, des préservatifs, mais aussi des gadgets en tout genre aux couleurs de l'association, blanc et violet. Face à elle, Jasmine, en licence d'études européennes et de communication.
J'aimerais juste que les gens puissent en parler, qu'ils soient informés, c'est tout. Peu importe ce qu'ils pensent, il ne s'agit pas de dire « écoute, tu dois être pour l'avortement ». Mais juste, laissons le choix.
Cet échange à Malte est loin d'être anodin. L'avortement y est interdit, quelles que soient les circonstances. Maya Dimitrievitch a 19 ans. Elle fait partie des Young Progressists Being Malta, une association d'étudiantes qui ont rallié le combat des Doctors for Choice. Pour elle, libérer la parole est essentiel, plus encore lorsqu'elle se souvient de la grossesse non désirée d'une de ses amies de lycée.
J'ai demandé ce qu'elle voulait faire et elle m'a dit « Tu sais, ma mère est tellement contente. Mais pourquoi ta mère est-elle contente? T'as 18 ans, tu devrais juste aller à l'école et à l'université. » Elle m'a dit qu'elle était terrorisée et qu'elle allait continuer à fumer et à boire. Comme ça, ça pourrait le tuer.
Une femme qui avorte risque 3 ans de prison et l'assurance d'être stigmatisée. Pour le médecin qui l'aide, c'est 4 ans d'emprisonnement et la radiation de l'ordre des médecins. Pour provoquer une fausse couche, les femmes s'en remettent souvent à des rumeurs ou des conseils qu'elles lisent sur Internet. Tout, plutôt que demander de l'aide, regrette ce médecin britannique installé à Malte, Christopher Barbara.
Nous savons que la situation actuelle pousse les femmes au désespoir. Nous savons que certaines femmes tentent de se blesser. Certaines tentent même de se suicider parce qu'elles veulent interrompre leur grossesse, mais ne trouvent pas le bon soutien. Nous savons que chaque année, des centaines de femmes ont entre leurs mains des pilules abortives et les prennent sans aucun suivi médical, ce qui les met en danger car il y a un tel tabou que si elles souffrent de complications, elles demanderont très difficilement de l'aide.
Christopher, Saveria, Maya et les autres militants présents à l'université ce jour-là veulent donc informer les femmes sur la contraception, mais aussi briser le tabou sur l'avortement et indiquer aux femmes les numéros qu'elles peuvent contacter en cas de besoin. Saveria Cremona distribue autour d'elle des autocollants argentés à coller dans les lieux publics fréquentés par les femmes.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'eux ? Le réseau pour le soutien à l'avortement. C'est une association à but non lucratif qui a une antenne ici à Malte et qui peut aider les femmes qui ont besoin d'avorter.
Un réseau qui emmène assez loin, au bout de la ligne, à plus de 2550 km plus au nord, nous voilà en Angleterre. Ce sont les bénévoles de cette association, l'ASN, qui répondent. Mara Clark en est la fondatrice. L'ASN fournit des informations sur l'IVG aux femmes qui habitent un pays où c'est interdit, comme à Malte. Si leur choix est de se faire avorter, à l'étranger, le réseau finance leur voyage grâce à des dons privés.
Quand vous entendez des patientes dire qu'elles rationnent la nourriture de toute la famille pendant 3 semaines pour économiser pour leur avortement, ou bien quelqu'un qui va dans 6 magasins de charité différents pour trouver des uniformes scolaires d'occasion pour ses enfants, histoire de mettre de l'argent de côté pour un avortement, ou bien quelqu'un qui revend la voiture de la famille pour aider à financer l'avortement de sa fille adolescente. Tout ça, c'est vraiment inacceptable.
Depuis un an, 82 femmes maltaises ont appelé la ligne de l'ASN pour avoir des informations sur la pilule abortive ou sur des noms de cliniques qui pratiquent l'avortement à l'étranger, le plus souvent en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Allemagne. 10 d'entre elles ont demandé une aide d'environ 1 000 euros. Des femmes invisibles dans le débat public maltais, déplore Mara Clark.
Tout ce que je peux faire, c'est espérer que plus de gens sachent que c'est une réalité. Ça existe, il faut qu'on arrête d'en parler en cachette. C'est ce qui se passait en Irlande pendant longtemps. On disait, aucune des femmes que je connais n'a avorté. Puis d'un coup, tellement de femmes ont parlé qu'ils se sont rendus compte que ça concernait une femme sur 3.
One in three women I know has had an abortion.
Les femmes maltaises qui ont appelé l'ASN cette année avaient entre 19 et 46 ans. Plusieurs d'entre elles avaient déjà des enfants. L'ASN aide les femmes maltaises, mais aussi celles de l'île de Man, de Gibraltar, d'Irlande ou de Pologne. Depuis sa création en 2009, le réseau a financé plus de 5 000 voyages à l'étranger pour interrompre une grossesse non désirée. De La Valette à Londres, Cécile Debarge, Europe 1.
Voilà, et après le Kenya, après Malte, on va voir ce qui se passe dans un pays d'Amérique du Sud. On retrouve Aude Villiers-Moriamé en Argentine. Bonjour Aude.
Bonjour Sophie.
Chez vous, pays très catholique, l'IVG n'est autorisé qu'en cas de viol ou si la grossesse présente un danger pour la santé de la femme enceinte. En 2018, la légalisation a failli être adoptée, mais rejetée de justesse au Sénat. Mais 2020 sera peut-être la bonne année. Le nouveau président argentin, Alberto Fernandez, s'est déclaré en faveur de la légalisation. Il l'a d'ailleurs répété lors de son discours d'ouverture des sessions parlementaires, c'était la semaine dernière devant le Congrès.
Un État présent doit protéger les citoyens en général et bien sûr les femmes en particulier. Et au XXIe siècle, toute société doit respecter la décision individuelle de ses membres à disposer librement de leur corps. C'est pour cela que d'ici les 10 prochains jours, je présenterai un projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse qui légalise l'avortement au début de la grossesse et permette aux femmes d'accéder au système de santé quand elles prennent la décision d'avorter.
Voilà le président argentin très applaudi. Aude Villiers-Moriamé, est-ce que Alberto Fernandez a déposé ce fameux projet de loi ?
Alors pas encore, mais beaucoup pensent que ce sera chose faite dans les jours à venir, ce qui serait symbolique, hein, juste après la journée internationale des droits des femmes. Mais toute la question, c'est de savoir ce que contiendra ce texte. Parce que l'ancienne proposition de loi avait été élaborée par la campagne pour le droit à l'avortement légal, sans risque et gratuit, un collectif d'associations. Et les sénateurs qui avaient rejeté ce texte avaient critiqué certains points précis, comme par exemple la question du nombre de semaines durant lesquelles l'IVG pourrait être autorisée. Il était alors question de 14 semaines. Eh bien, pour obtenir davantage de consensus, Alberto Fernandez pourrait proposer que ce soit 12 semaines, comme en France. Le gouvernement pourrait aussi garantir la possibilité pour les médecins de faire appel à leur clause de conscience s'ils ne souhaitent pas pratiquer d'IVG.
Et si ces concessions étaient faites, effectivement, est-ce que le climat permettrait que la loi passe à coup sûr cette année ?
Alors, le climat politique, il est beaucoup plus favorable aujourd'hui qu'en 2018. C'est la première fois qu'un président argentin en exercice se déclare pour la légalisation de l'IVG. Alberto Fernandez a dit que c'était une question de santé publique, et c'est vrai, car les avortements clandestins causeraient la mort d'une 50aine de femmes par an, selon les associations féministes. Et le président a aussi parlé du droit des femmes à disposer de leur corps, et ça, c'est une première en Argentine. Reste à voir si cette volonté politique de l'exécutif sera suffisante. Le Congrès a été partiellement renouvelé l'an dernier. Les journaux argentins ont fait des simulations qui montrent que chez les députés, le texte passerait sans problème. Par contre, chez les sénateurs, les anti-avortements sont toujours, pour l'instant, majoritaires, à quelques voix près. Tout est donc possible. En tout cas, les militantes qui défendent le droit à l'avortement y croient plus que jamais. Et de leur côté, vous l'imaginez, les anti-IVG sont très remontés. Ils ont même prévu de se rassembler ce dimanche à la basilique de Luján, en grande banlieue de Buenos Aires, pour une messe, je cite, en faveur de la vie.
Et là encore, Aude, on compte sur vous pour nous tenir au courant, pour nous faire écouter le monde changer. Merci beaucoup, Aude. À bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
Et c'est avec vous qu'on referme ce petit dossier. 3 pays qui interdisent l'IVG, 3 situations différentes. Et on va retourner en Angleterre dans un instant pour rencontrer une femme qui a choisi de devenir
une femme traditionnelle au foyer, une trad wife, disent ces groupes Facebook qui préconisent de rendre les armes, admirer son mari et se taire. Youpi.
Europe 1, les carnets du monde.
13h-14h le dimanche sur Europe 1, nous sommes avec Sophie Larmoyer. Allez, il est 13h48, on prend ensemble la direction de l'Angleterre pour rencontrer certaines femmes qui n'ont pas du tout envie d'être les égales des hommes.
Ce sont des femmes qui font un choix de vie particulier, une sorte de retour dans le temps, avec un objectif, chouchouter son mari et être une parfaite femme au foyer, mais alors version années 50-60. Elles s'appellent elles-mêmes les trad wife, femmes au foyer traditionnelles, se revendiquent comme telles dans des milliers de groupes Facebook dans le monde. Et parmi elles, Gemma, 30 ans, au Royaume-Uni. Johanna Chabas est allée à sa rencontre. Voici son reportage à Evesham, ville minuscule au cœur de l'Angleterre.
Dans le quartier résidentiel d'Evesham, toutes les maisons se ressemblent, alors c'est le bruit qui m'indique que j'ai trouvé la bonne. À la première sonnerie, j'entends quatre enfants courir pour m'ouvrir la porte. Grace, 3 ans, gagne la cour suivie de ses 3 grands frères. Puis Gemma, 30 ans, arrive. La grande blonde à la longue robe noire me fait entrer rapidement, il faut vite qu'elle retourne en cuisine. En passant dans le salon, elle vérifie que les uniformes scolaires sont bien en train de sécher et se remet à l'épluchure des pommes de terre. Mais Gemma insiste d'entrer, son rôle de trad wife ne se limite pas aux tâches ménagères.
L'idée, c'est d'être une bonne femme pour son mari. C'est apprendre à comprendre les hommes. J'essaie d'être respectueuse et, comme on dit dans le groupe, de me mettre un baillon. C'est aussi laisser l'homme choisir et lui en être reconnaissante.
Sur le mur, face à elle, 2 calendriers, un bleu pour son mari et pour elle, un rose de la même teinte que son cardigan et que son fard à paupières. Dans la philosophie des trad wives, l'homme doit être masculin et la femme très féminine. Ce n'est pas un retour en arrière pour Gemma, ce sont juste les lois de la nature.
Les femmes sont les créatrices. On peut se concentrer sur plusieurs choses à la fois, sur tout ce qui nous entoure. Et c'est comme si tout nous parlait. J'ai besoin d'être lavée, d'être rangée, d'être réparée. Alors que les hommes, eux, ne peuvent faire qu'une chose à la fois. Parce qu'on était des cro-magnons avant. Et nos cerveaux fonctionnent toujours de la même façon.
Mais Gemma n'a pas toujours été femme au foyer. Mère célibataire à 17 ans, elle a longtemps travaillé en tant qu'agente immobilière. Comme beaucoup de trad wives, c'est quand elle a eu des problèmes de couple qu'elle a découvert ce mode de vie. En s'installant avec Barry, celui qui est maintenant son mari, Gemma s'attendait à un conte de fées.
Il ne m'aidait jamais. Et du coup, on se disputait tout le temps. J'avais l'impression d'avoir été lâchée dans cette maison avec lui, plein d'enfants, et de ne pas être soutenue. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est horrible. J'étais prête à le quitter, mais j'avais peur de le faire à cause des enfants. Je ne voulais pas les élever à nouveau toute seule.
Une amie lui conseille alors une série de livres, La femme qui rend les armes, La femme fabuleuse, Comment gérer parfaitement sa maison. Des ouvrages qui encouragent les femmes à admirer leur mari, à faire de leur famille et non de leur carrière une priorité, à vivre comme à l'époque de nos grands-parents. C'est la philosophie des trad wives. En quelques semaines, Gemma s'arrête de travailler.
C'était comme de la magie. J'ai en fait un peu revu mes attentes à la baisse. Tu peux rêver de partir et trouver quelqu'un d'autre, mais tous les hommes vont avoir des défauts. Tous les hommes sont assez dégoûtants, il faut l'accepter. Ou alors pourquoi est-ce qu'on essaierait de vivre avec un homme?
Elle l'admet, ça a parfois été difficile, mais surtout à cause du manque d'argent. Elle pointe du doigt ce qui ne va pas, la porte-fenêtre cassée, le mobilier abîmé, les trous dans le mur. La famille de 6 ne vit qu'avec le salaire minimum de son mari.
On ne sort pas beaucoup, mais je les emmène à la bibliothèque, en ville, au parc. Ça correspond à ma philosophie. Mais avant, quand je travaillais, je me sentais toujours coupable. Donc on allait dans un parc d'attractions pour la journée. Mais je ne me sentais pas forcément plus proche de ma famille.
Gemma entend son mari arriver. Le trentenaire au pull à l'effigie d'un groupe de rock revient de chez le coiffeur. Gemma profite de sa présence pour s'éclipser dans le jardin, fumer une cigarette. En attendant, il surveille les enfants en restant loin de la cuisine. Barry est très fier de leur mode de vie qu'il décrit lui-même comme non moderne.
Quelque chose qui est moderne n'est pas forcément un progrès, n'est pas forcément bien.
Gemma va prendre le temps de me faire des compliments, de me remercier, d'aller au boulot. Elle va me dire merci de travailler et de subvenir aux besoins de la famille. C'est sympa. Je ne voudrais pas qu'elle se sente piégée à la maison. Tant qu'elle est contente, ça me va. Comme on dit, femme heureuse, vie heureuse.
De retour en cuisine, Gemma sourit de toutes ses forces. Comme son mari, elle ne supporte pas quand le mouvement des Chadwives est accusé d'être anti-féministe.
Tu peux totalement être féministe et t'occuper de tes enfants. C'est comme si on oubliait d'aimer ce qu'est être une femme. Ce n'est pas parce qu'on veut la même chose que les hommes qu'on doit agir comme eux. On est dans un monde où on est libre de faire ce qu'on veut. J'ai juste l'impression que beaucoup de femmes loupent des choses parce qu'elles ne se rendent pas compte de toutes les possibilités.
Elle admet qu'elle ne sera peut-être pas une Chadwife toute sa vie. Quand ses enfants auront grandi et seront partis, elle cherchera sûrement du travail. Mais seulement à mi-temps, ses priorités resteront son mari et sa maison. Yves Chum, Johanna Chabas, Europe 1.
Et voilà, j'ai envie de dire, moi je propose qu'on organise un petit échange culturel entre Gemma et sa famille et puis celle de Valence et d'Eugénie qu'on a entendu au début des carnets à Nombé au Rwanda. Ça pourrait être très intéressant.
Les carnets du monde sur Europe 1.
Et on va terminer sur une touche légère, Sophie Larmoyer, avec Joseph Chovanec et ce petit voyage qu'il nous propose chaque semaine. On prend la direction de l'Autistan.
Joseph, avec sa petite valise, comme souvent, entre deux trains ou deux avions. Vous êtes notre philosophe voyageur. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Philosophe voyageur et autiste Asperger, et donc avec ce don que vous avez de nous faire voir les choses un peu autrement parfois. Et vous avez repéré qu'hier, c'était la journée de l'improvisation. C'est pas bon pour votre ulcère, ça?
Et non, Sophie, il ne s'agit pas d'une journée très structurée. D'ailleurs, je ne sais même pas très bien qui organise cette journée, si j'ose dire. Depuis toujours, je me demande pourquoi les non-autistes aiment tellement l'improvisation, la désorganisation. Ah. À l'inverse, une vie d'autiste est souvent marquée par l'organisation, la prévisibilité. Un peu à l'image de cette jeune femme autiste que je connais, hein, qui refuse de se marier car elle a anticipé le problème quand on veut aller aux toilettes en portant la fameuse robe de mariée.
Ah oui, jusque-là. Bon, c'est-à-dire que vous prévoyez toujours tout très en amont.
Oui, mais le problème, Sophie, c'est que selon les cultures, le degré d'anticipation est plus ou moins fort. Dans certains pays, vous pouvez réserver une chambre d'hôtel ou un billet de train très longtemps à l'avance, même un an. Ça ne surprendra guère. Mais dans d'autres lieux, c'est impossible. Je me souviendrai longtemps de la scène de malaise que j'avais eu l'an dernier dans le village omanais où je séjourne en hiver. Je voulais acheter un billet de bus. Je me suis donc rendu au guichet dédié. J'ai dû réveiller l'employé qui roupillait derrière son bureau. Il m'a fixé d'un regard étonné et m'a dit « Mais aucun bus ne part maintenant. » Je lui ai expliqué que c'était pour demain soir. Et lui, agacé, a fait un grand mouvement des bras et m'a répliqué « Eh bien, tu reviens demain. » En somme, deux mondes opposés. Hein. Cette année, en revenant au village, j'ai pu voir que le guichet de vente de billets avait été supprimé. Problème d'anticipation résolu. On achète désormais les billets directement chez le conducteur.
Ben voilà, c'est pour vous éviter de vous faire des nœuds au ventre, Joseph. Quand on ne peut pas réserver, on n'a plus besoin de s'en soucier. On improvise, justement.
Oui, et pour les hôtels, c'est très délicat. J'ai un souvenir avec mes amis turcs que j'ai pu sillonner l'Iran, y compris des lieux extrêmement improbables, très peu touristiques. Mais à ma grande horreur, mes deux amis et compagnons de voyage turcs ne commençaient à se soucier de l'hébergement qu'une fois arrivés dans une ville, et ce typiquement à la nuit tombée. À l'époque, je n'avais pas compris une chose. Ce n'était pas mes amis qui étaient désorganisés, mais c'était qu'il était impossible de réserver sa chambre longtemps à l'avance. Et parfois, mes réflexes de planification font tout déraper et ne font que déboucher sur de l'anxiété vaine.
Ça sent le vécu, vous avez un exemple en tête.
Oui, hélas, l'an dernier, j'ai planifié au mieux mon voyage au Cameroun. Ouais. D'ailleurs, j'avais eu la satisfaction de recevoir par email une attestation de réservation d'hôtel.
Ouf,
ce sera utile pour avoir le visage, m'était dit, et pour me préparer mentalement dans la circulation urbaine. J'ai imprimé des cartes de la ville de Douala avec l'emplacement de l'hôtel, préparé les itinéraires, etc. Sauf qu'à l'arrivée, et ça j'aurais dû m'y attendre, on m'a mené à un tout autre hébergement à l'autre bout de la ville par rapport à l'hôtel. Et au fur et à mesure du trajet en voiture, mon angoisse montait. montait. Je me demandais si j'étais kidnappée ou autre. Ouais. Car oui, la réservation d'hôtel était purement fictive. Autre instant délicieux de ce type, j'ai eu la joie de participer l'autre jour à une conférence à Anvers.
Ah bah là, ça va, on est en Belgique.
Oui, dans la partie flamande Belgique. La Flandre, papa, la Wallonie a cette réputation d'être plus organisée, plus autistique si on veut. Or, les organisateurs, justement, étaient inquiets, très inquiets même, parce que comme j'habite en Wallonie, ils avaient peur des imprévus pendant le trajet en train. Et là où leur niveau d'angoisse a dérapé, c'est quand je leur avais dit que la veille, je devais être à Rouen, en France.
Ils avaient la bougeotte.
Catastrophe. Ils ont dû passer une semaine sans dormir. Et par contamination, j'ai moi-même fait le trajet la peur au ventre et j'avais même acheté plusieurs billets au temps de plan B. Bref, comme dirait le néerlandais, van een moer een olifant maken. Donc faire d'une mouche un éléphant. Bon, après tout, la vie n'est qu'une succession d'imprévus. Une grande leçon pour moi.
Moi, je suis sûre en plus que vous avez aussi des souvenirs d'imprévus qui se sont révélés de très belles surprises.
Oui, des rencontres surtout.
Voilà, merci beaucoup Joseph. À dimanche prochain et ça, c'est prévu, on ne change rien.
À tout bientôt.
C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui. Vous savez que le podcast est tout à vous sur europe1.fr. Émission réalisée par Marc Fréjean et préparée par Emmanuel Calafiore. Merci à eux. Et je vous passe le témoin, Nicolas. Qu'est-ce que vous nous préparez? Qu'est-ce que vous nous avez préparé dans La Voix élue?
Je vais vous faire plaisir aujourd'hui, Sophie. Je reçois Leïla Slimani pour son nouveau roman.
J'adore.
Ça fait partie de ses livres. On sait déjà que ça va devenir un grand classique.
En plus, ce sera une trilogie.
Oui, exactement.
Nicolas Caro, La Voix élue, c'est dans quelques instants, dans quelques minutes. Et quant à nous, on vous prépare de nouvelles aventures pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.